La France bouge continue, Raphaël, avec la solution du jour de Dora Nana.
Oui, comment faire connaître l'Europe aux plus jeunes grâce à un magazine. Et c'est la solution du jour, Dora, ça s'appelle Mia Europo.
Et Mia Europo, c'est un petit mensuel pour les 8-13 ans qui, tous les mois, emmène ses jeunes lecteurs à la découverte d'un pays européen. Alors, à travers un long reportage, ils se familiarisent avec ses traditions, son histoire, sa géographie, sa cuisine et même un petit cours de langue. Ce mois-ci, direction l'Estonie. Bonjour Pauline Colin.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et rédactrice en chef de ce petit magazine, Mia Europo. Pourquoi vous avez choisi l'Europe? Ma première question, je suis thème central, l'Europe, c'est mal connu des plus jeunes, il y a une curiosité de leur part?
Bah, tout à fait. En fait, les enfants sont déjà des citoyens européens, mais ils n'ont pas forcément accès à une information à leur niveau pour parler des sujets européens. Du coup, on avait envie de leur mettre entre les mains, en fait, de leur donner accès à un document, donc là en l'occurrence un magazine, qui leur parle simplement d'Europe et qui les aide à découvrir et à comprendre l'Europe.
D'ailleurs, vous n'avez pas choisi ce titre par hasard, Mia Europo, hein ?
Tout à fait. Mia Europo, c'est de l'espéranto, en fait, donc cette langue internationale construite, tout à fait, construite à partir des autres langues du monde. Et du coup, Mia Europo, ça veut dire mon Europe en espéranto. Et donc, ça fait écho à l'objectif du magazine qui est d'aider nos jeunes lecteurs à réaliser qu'ils font partie de l'Europe et qu'ils sont européens.
Parlez-nous de Mia et Pao, justement. Mia comme Mia, mais il y a deux petits personnages à l'intérieur.
Mia et Pao, ce sont donc les deux mascottes du magazine. Ce sont deux personnages et deux enfants. Donc Mia, une petite fille, et Pao, un petit garçon. Et en fait, on trouvait ça important que dans chaque numéro, les enfants retrouvent justement ces personnages qui sont là pour les accompagner dans la découverte des différents pays européens.
Un petit fil conducteur, en quelque sorte.
Exactement.
Et pourquoi vous avez ciblé les 8-13 ans? Moi, je me suis aussi posé cette question, parce que je me dis que c'est entre le primaire et le collège. Donc, il y a vraiment des passerelles,
oui.
Justement.
Oui, oui. Donc, en fait, on cible les élèves en fin d'école primaire et début collège. Donc, le magazine est vendu. D'ailleurs, on a pas mal d'abonnés scolaires, des écoles primaires et des collèges. Et d'après les spécialistes de l'éducation, c'est un magazine qui est vraiment adapté pour les enfants du cycle 3, donc du CM1 à la 6e. Mais en fait, on sait aussi que tous les enfants n'ont pas le même niveau de lecture. Et à 8 ans, il y a des enfants qui sont déjà très intéressés par ces sujets-là. Donc, on écrit très simplement pour que, justement, des enfants de 8 ans, enfin des jeunes lecteurs réussissent à comprendre le magazine. Mais on a des pages, notamment d'information, d'actualité, qui là parlent peut-être plus à des plus âgés, notamment voilà, les 11-13 ans.
Hélène Valade.
Alors, moi je suis fascinée par le fait que vous ayez fait le choix du papier. Parce que voilà, on pourrait penser que c'est encore très risqué d'avoir une initiative en papier. Puis là, il y a plein de choses qui montrent que non et qu'au contraire, c'est peut-être pas mal parce que c'est un rapport à la lecture, notamment pour cette classe d'âge qui est différent et qu'il faut savoir entretenir. Donc, comment ça s'est passé? Vous avez fait le choix de
papier? On a fait le choix, mais on a posé la question aussi. Donc, avant de lancer le magazine, évidemment, on a fait une étude de marché et c'était vraiment une de nos questions centrales. Donc moi, personnellement, j'étais très attachée au papier et je pensais que pour des enfants, c'était intéressant. Et en fait, les réponses qu'on a eues ont conforté ce choix-là, parce qu'à la fois les parents et les enseignants sont attachés justement à du papier pour leurs enfants. Après, du coup, on prend en compte évidemment la concurrence entre guillemets du numérique au niveau de notre charte graphique. C'est-à-dire que c'est un magazine qui est très coloré, on a beaucoup d'images, donc on fait vraiment attention à ce que, même si c'est du papier, il reste visuellement agréable et qu'il soit dynamique, attractif, exactement.
Il y a plein de choses à découvrir. Hein. Le savais-tu, par exemple, il y a un autre moyen d'arriver sur les îles estoniennes, traverser en voiture sur la mer gelée. Oui, oui, parfois en hiver, c'est possible. La traversée peut faire jusqu'à 25 km. On apprend plein de choses.
On apprend plein de choses. Je pense qu'en effet, même les adultes peuvent apprendre quelque chose. Donc en fait, chaque numéro met à l'honneur un pays européen. Donc là, c'est notre numéro sur l'Estonie. Et dans le reportage, on fait 3 ou 4 étapes pour vraiment présenter différents lieux, différents aspects de cette région. Et du coup, donc forcément, on présente des choses qu'on n'a pas forcément en tête et que tout le monde ne connaît pas. C'est ça vraiment l'intérêt, c'est de faire découvrir un endroit, un espace.
Et vous avez aussi un petit dossier, et j'étais assez étonnée, parce que je me suis dit, c'est un peu culotté de votre part. En tout cas, c'est sans tabou et c'est plutôt chouette. C'est par exemple, dans ce numéro, ce mois-ci, dans le mois de février, vous parlez du sort des réfugiés. Alors, pour des enfants, bon, c'est quand même un peu...
Oui, donc on a un dossier qui s'appelle La grosse actu européenne, où chaque mois, c'est sur une double page, on traite un sujet d'actualité. Et c'est la première fois, je vous avoue, en 6 numéros, qu'on ose traiter un sujet qui est un peu dur. Mais en fait, on avait envie de montrer que l'actualité européenne, c'est pas que l'école, c'est pas que les traditions de Noël. Et justement, c'est aussi des fois des choses un peu plus dures. Donc après, on fait très attention à l'angle qu'on choisit. Et là, notre dossier sur les réfugiés, on est parti des mauvaises conditions climatiques, enfin météorologiques. Donc c'était l'hiver. C'était très humide, là, dans ces camps de réfugiés sur les îles grecques. Et du coup, on avait envie de montrer que c'est compliqué, du coup, d'être dans ces conditions. Et ça nous a permis de parler aussi des personnes qui se retrouvent sur ces îles, d'où viennent-elles, et donc de traiter ce sujet d'actu.
Aujourd'hui, numéro 6, ça fonctionne, ça marche, les écoles vous suivent, à la vente aussi, ça plaît ?
Ça fonctionne, donc là, on se rapproche de notre seuil de rentabilité. Donc le magazine s'est lancé en septembre, et on s'est lancé après une campagne de crowdfunding qui nous avait permis du coup de récolter des fonds et d'être assez serein pour les premiers numéros et donc de pouvoir nous concentrer sur la prospection. Et là, donc, on a un très bon seuil de réabonnement, donc ça, c'est positif. Et on a de nouveaux abonnés très régulièrement. Donc, ça a bien démarré, en tout cas.
Et puis, félicitations, parce que vous avez fait le pari du sans pub aussi. Ça, je tenais à le préciser.
Oui, tout à fait. Pas de publicité dans le magazine, donc magazine papier. Et pour le moment, on n'a pas besoin de la publicité pour avancer.
Ça s'appelle Mia Europo, c'est en espéranto et c'est pour mieux faire connaître l'Europe à vos enfants entre 8 et 13 ans. Merci d'être venu nous proposer cette solution pour tous les parents qui auraient envie d'aider leurs enfants à mieux comprendre l'Europe.
Merci à vous.
Il est midi 57.
Europe 1. On reste ensemble bien sûr, nous sommes le 14 février et on a eu envie de vous emmener à la rencontre des couples qui entreprennent, partager vie privée, vie professionnelle. Est-ce un risque ou un atout? Ils viendront nous le dire, c'est notre dossier du jour. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans La France bouge. Vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Nous avons donc décidé de vous montrer qu'on peut aussi entreprendre en couple et que les exemples de ceux qui réussissent à conjuguer vie professionnelle et vie privée sont nombreux. Avec nous, notamment aujourd'hui, les fondateurs de PAP Particulier à Particulier. Catherine Néressis et Patrick Joly, bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous. Particulier à Particulier, tout le monde connaît évidemment aujourd'hui. C'est vous deux qui avez lancé l'aventure, ça commence en 1975, mais votre rencontre à vous, elle commence bien avant, en colonie de vacances, c'est ça Patrick?
C'est ça, oui.
Vous aviez quoi, 16, 17 ans?
C'est ça, oui.
16 ans.
16 ans, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le coup de foudre?
Ah oui.
Oui.
Ah oui.
On peut dire ça.
C'est un coup de foudre, même aussi professionnel. Enfin, on sentait déjà qu'on avait envie d'être indépendant.
Ah, d'être indépendant. Patrick, vous confirmez?
Tout à fait.
Bon.
D'être libre et indépendant.
D'être libre et indépendant. Alors, vous vous rencontrez, évidemment, le journal ne naît pas tout de suite, mais en 1975, on voit arriver ce journal. Ça commence comment? Par une expérience personnelle? Je crois que vous, Catherine, vous aviez travaillé à Stratégie, vous étiez documentaliste, et puis vous avez aussi fait un stage en entreprise chez des agents immobiliers. Ça vous a un peu marqué?
Oui, j'avais quand même vu quelques pratiques qui ne me plaisaient pas du tout. Et puis, vous savez, j'étais toute jeune, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu militant. C'est-à-dire que je voulais vraiment que les personnes puissent trouver un logement, soit à la location, soit à la vente, sans avoir de commission à payer, parce que je trouvais ça insupportablement cher. Et d'ailleurs, nous, on cherchait et je n'avais pas du tout les moyens de payer une commission.
Alors, vous n'aviez pas les moyens, mais vous avez mis vos économies, Patrick, dans le lancement de PAP.
Oui, tout. Il fallait 20 000 francs à l'époque pour créer une petite SARL. Ben, on a mis les 20 000 francs et puis on s'est lancé. Voilà, on n'y connaissait rien, mais on a appris. On a appris sur le tas ce qu'était un journal.
12 pages, hein, le premier.
12 pages, 98 annonces, je crois, oui. Quelque chose comme ça, oui. Donc rien du tout, quoi.
Et ça marche. 10 000 exemplaires en 2 jours.
Exactement, oui. On a tiré 10 000 parce qu'on ne savait pas du tout où on allait. Et on a tout vendu. On a tout vendu. On s'est même fait engueuler par le réseau à l'époque NMPP.
Oui.
Maintenant, c'est Prestalis. On s'est fait engueuler.
Les nouvelles messageries de la presse.
Voilà, évidemment. C'est ça exactement qui distribuait la presse en France. Oui.
Vous avez compris tout de suite que ça allait marcher parce que ça a mis du temps à être rentable. Quelques mois quand même.
Ça a mis 8 mois.
Oui.
8 mois pour que l'exploitation mensuelle soit positive. Et donc à partir de là, oui. En fait, on a pris un gros risque au début, c'est-à-dire qu'on perdait de l'argent petit à petit. On sentait que ça marchait, mais on perdait de l'argent. Et on a tenté un coup, j'ai fait une grande campagne de pub.
Dans le métro.
Dans le métro, voilà, des panneaux de 1 mètre sur 1 mètre 50, je me souviens, dans les couloirs. Et à partir de là, on a dépassé notre point mort. On a commencé à gagner de l'argent et après le produit s'est envolé.
Justement, on parlait des débuts difficiles, des économies qu'il a fallu faire. Vous êtes resté dans votre appartement à Gentilly hein, au début parce que vous n'aviez pas les moyens de déménager, ce qui est quand même l'ironie de l'histoire.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris la décision de justement lancer une entreprise et donc de lancer PAP, on s'est dit comment on va faire pour faire des économies. Et bien donc, on est allé dans un logement insalubre. Mais malgré ça, on était très heureux.
Hein. Ah bah oui, ça n'empêche pas, effectivement.
Ça n'empêche pas.
À 3h du matin, vous passiez l'aspirateur au bureau ?
Mm-hmm.
Oui. C'était vous, Catherine, qui passiez l'aspirateur ?
Non, allez, les tâches étaient partagées.
Bon, les tâches étaient partagées.
Que je suis politiquement correcte ?
Oui, je vous félicite. Hélène Valade, qu'est-ce qu'on peut dire devant une aventure telle que celle-là ? Parce qu'aujourd'hui, c'est 220 collaborateurs PAP, entre 50 et 60 000 annonces en ligne pour les ventes.
C'est absolument extraordinaire. Puis la manière dont vous le décrivez est vraiment extrêmement touchante. Et ça montre en plus qu'on peut travailler ensemble et préserver son couple. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que souvent, on dit l'inverse. Et vous êtes la preuve vivante que voilà, travailler ensemble, c'est un couple qui dure. Donc, chapeau. Et sur la réussite économique aussi. J'aurais juste une question. Vous avez maintenant une force d'influence extraordinaire. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour la prise en compte de la dimension énergétique des logements maintenant ?
Ah, vaste sujet.
Non, je vais laisser Catherine répondre, parce que je suis très lâche sur ce sujet.
Voilà, les questions difficiles, c'est pour les femmes. Question, partage voilà, des tâches équitable.
Ça, je ne vous félicite pas, monsieur. Là.
Je savais qu'on allait bien s'amuser aujourd'hui.
En fait, à chaque fois que l'on peut essayer d'intervenir, je dirais, sur certaines choses, on le fait, mais c'est malgré tout très compliqué. La valeur écologique, je dirais, des logements, c'est un sujet de fond, de longue haleine, et malheureusement, ce n'est effectivement pas bien pris aujourd'hui. Voilà.
Qu'est-ce qui a été le plus dur dans le couple, justement, partager 24 heures sur 24 votre vie ou arriver à faire la différence entre le professionnel et le personnel ?
Alors, moi, je n'ai pas ressenti de difficultés particulières. La vie privée et la vie professionnelle étaient totalement liées. Il n'y avait pas de différence. On rentrait le soir à la maison, on pouvait très bien parler travail ou pas. On ne s'obligeait pas à une séparation. Ça faisait partie. Notre vie était un tout et tournait autour de ce que nous faisions. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Catherine, mais voilà, moi, je ne faisais pas de différence.
Catherine ?
Moi, je trouve qu'à partir du moment où on sait séparer les tâches en fonction... En fait, à partir du moment où on sait devenir complémentaire, eh bien, à partir de là, tout va bien. Mais il faut malgré tout séparer les tâches parce que sinon, on se marche dessus, donc c'est pas bien. Mais à partir de là, tout va bien. Et au contraire, c'est une extraordinaire confiance parce qu'on a un partenaire de confiance et c'est fabuleux.
Dora, justement, il y a d'autres success stories hein, en couple. Vous en avez trouvé quelques-unes.
Et oui, il a bien fallu faire un choix parmi toutes ces love success entreprises. Hein. Bérangère et Hervé Lecat, par exemple, à la tête depuis 15 ans de Complétude, le numéro 2 du soutien scolaire à domicile en France. Eux, ils font l'inverse de ce qu'ils professent. Hein. Ne jamais travailler à la maison. Leur dernier bébé, c'est Qui nous garde, un service de garde d'enfants. Puis aussi une marque que tout le monde connaît, la Wonderbox. Et là encore, un couple se cache derrière. Bertil Burel et James Blouzard.
Oui, évidemment.
Et voilà, qu'on salue au passage. Et les champions, hein, c'est mes petits champions à moi, Elisabeth et Nicolas Soublé, les créateurs de Squeeze, c'est les gourdes de compote réutilisables, une entreprise en commun et 5 enfants.
Ah oui, on peut effectivement leur tirer un grand coup de chapeau. On reste ensemble et on continue à entreprendre en couple aujourd'hui.
Il est 13h18.
Europe 1.
Eux aussi ont entrepris à deux, Eliette et Julien sont les fondateurs de Cocoli. À tout de suite.
On ne vous apprend rien en vous disant qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Alors dans La France Bouge, on s'intéresse aux couples qui ont décidé d'entreprendre ensemble et vos invités Raphaël en sont de très bons exemples. Alors si vous, auditeurs, vous avez des questions pour eux, eh bien on vous attend en direct au 39-21, 50 centimes la minute.
C'est au travail, tiens, justement, en 2008 que les fondateurs de Cocoli se sont rencontrés. Eliette, Vincent, Julien Ladré, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez en relation de clientèle, hein, c'est bien ça, Julien, avec Eliette. Vous travailliez à l'époque chez un comparateur de prix. Et manifestement, vous aviez, quand vous vous êtes rencontrés, tous les deux envie d'entreprendre.
Exactement.
Entreprendre à deux ou entreprendre chacun de son côté au départ, Eliette?
C'était un jour au détour d'une conversation que j'ai dit à Julien, on est tous les deux dans des structures qui sont assez jeunes, qui bougent vite, qui sont entrepreneuriales, même si à l'époque on ne parlait pas encore de start-up. Et je lui ai dit, est-ce que ça ne te dirait pas un jour qu'on crée quelque chose ensemble? Et c'est comme ça que ça a commencé, même si après l'histoire de Cocoli a commencé...
Un peu plus tard. Oui, parce que votre histoire de couple à vous commence en 2010 et l'idée de Cocoli, c'est 2014. C'est une histoire de commode hein, au départ pour votre fille, c'est ça?
Exactement.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette commode?
Ce qui se passe, c'est que on avait Jeanne qui était née en juin. Donc l'histoire s'est passée à peu près au mois d'août, donc elle avait 2 mois. Et on cherchait une commode allongée pour mettre dans sa chambre, pour la changer plus facilement et en toute sécurité. Et j'avais repéré un modèle qui me plaisait beaucoup, le design me plaisait, les tiroirs s'ouvraient sans poignée, donc je me suis dit comme ça allait pas être compliqué quand elle grandirait, qu'elle pourrait pas les ouvrir. Et j'ai repéré cette commode sur un site de vente entre particuliers à Lille, et faire venir une commode de Lille à Paris, ça coûte finalement plus cher si on passe par une solution traditionnelle.
Et vous n'aviez pas votre permis.
Voilà, et j'avais pas mon permis. Je n'avais pas mon permis.
Vous l'avez passé depuis ou pas?
Julien, oui, moi non.
Ah bon. Donc, vous vous dites, il faut faire quelque chose, il faut peut-être organiser une sorte de blablacar des colis.
Exactement, en fait. À ce moment-là, on parlait beaucoup de blablacar et du coup, j'ai fait le rapprochement assez facilement en me disant, si on met des gens dans les voitures, pourquoi pas mettre des objets pour les acheminer à moindre coût et de manière écologique.
Alors, ça démarre comment, Julien? Vous créez l'entreprise en 2015 et c'est véritablement lancé en 2016?
Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, elle a germé en 2014. On a créé, je crois, la structure juridique en août 2015 et on a lancé le site fin 2015, début 2016.
Ça marche tout de suite ou ça prend du temps?
Ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut constituer une communauté. Donc au début, on appelle beaucoup les utilisateurs pour prendre leur feedback sur le service. Et au fur et à mesure, en fait, on a une idée de plus en plus précise de comment doit être fait le service. Et faut quand même un an en fait pour que ça se lance, et on sent que ça prend, et surtout c'est un peu l'idée qu'on a eue depuis le début, c'était d'interroger les gens pour voir vraiment si l'idée, l'intuition qu'on avait eue était bonne. Et assez vite on a des retours encourageants, les gens communiquent entre eux, les premiers colis se livrent, et en fait on se rend compte qu'énormément de gens ont eu cette même difficulté, et que le service il a potentiellement un bel avenir.
Vous dites aujourd'hui, on a un utilisateur sur quatre qui utilise Cocoli pour se faire livrer un bien qu'il a repéré, par exemple, sur le Bon Coin.
Mmh, exactement.
C'est beaucoup. Comment est-ce que vous avez géré, justement, la vie professionnelle et la vie privée? Est-ce qu'il y avait, d'un côté, la vie professionnelle, de l'autre, la vie privée? Ou est-ce que, finalement, c'est un savant mélange des deux au quotidien?
Je vais répondre. Non, en fait, vraiment, c'est intéressant d'entendre le témoignage de PAP. Parce que vraiment, en fait, on s'est vraiment ressenti dans ce témoignage. Il n'y a pas de limite, en fait, entre le pro et le perso. Le tout, c'est de savoir, en fait, de ne pas se marcher sur les pieds. Et de s'épanouir surtout dans un but commun. Et depuis le début de Cocoli, nous tous les deux, on avait vraiment cette idée d'entreprendre et de faire quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'on a mis notre famille, on a mis notre histoire en fait ensemble et ça fonctionne. Ça fonctionne.
Ça fonctionne, Eliette.
Ça fonctionne hyper bien en fait. Ce qui est génial, c'est que non seulement comme on passe tout notre temps ensemble, on échange. Un peu comme vous, à la fois sur des problématiques d'entreprise et puis des problématiques perso. Enfin, il n'y a pas de limite, mais du coup, je pense qu'on a une symbiose qui est beaucoup plus forte que parmi d'autres associations. Et à côté de ça, le fait d'être entrepreneur, ça nous permet aussi d'avoir un équilibre de famille génial parce que on s'occupe de nos enfants autant qu'on le souhaite, on passe du temps avec eux et du coup, on a un équilibre qui est parfait.
Que dit notre coach, Hélène Valade?
On dit souvent que lorsqu'on travaille ensemble, on se chamaille plus. Donc on ne travaille pas ensemble, donc vous nous dites c'est un super stéréotype. Dites-nous la vérité, vous vous chamaillez jamais?
On n'a pas dit qu'on se chamaillait pas.
On veut la vérité.
On se sent soulagé.
Mais pas plus que si vous travaillez chacun dans une organisation différente, c'est ça?
On ne travaille pas dans une organisation différente, donc on peut pas vous dire.
Ouais, ce chemin, c'est sûr.
Mais après, en fait, le tout, c'est de marcher dans la même direction. Et pour le coup, nous, on a mélangé le privé et l'entreprise. Et pour l'instant, ça fonctionne bien.
Justement, moi, je voudrais savoir s'il y en a beaucoup des couples qui entreprennent ensemble. Est-ce que vous avez trouvé des chiffres, Dora ?
Eh bien, Raphaël, c'est difficile justement d'avoir des chiffres sur le sujet. On estime qu'ils sont entre 15 à 20% à travailler avec leur conjoint. En 2017, ça concernait 600 000 entreprises, commerciales ou artisanales. Alors moi, au fil de mes lectures, je me suis aussi rendu compte d'autre chose. C'est que le plus souvent, oui, il y a complémentarité. L'un gère la communication, le marketing, et le plus souvent, c'est la femme. Et l'autre, le côté commercial et financier, le plus souvent, c'est l'homme. Question.
Alors, vous nous confirmez, Elias ?
Tout à fait.
Tout à fait, c'est ça.
Pour le coup, on est dans les stéréotypes.
Même chose pour vous, chez PAP, c'est la même distribution des rôles ? Pas forcément.
Catherine est très créative. Moi, un peu moins, et je m'occupe plutôt de la gestion, et voilà.
Bon, on a le contre-exemple. On reste ensemble, et on va évidemment continuer à entreprendre en couple aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Eux ont l'amour de la Corse et des produits en commun. Anthony et Laetitia ont créé la distillerie Massicciu. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous êtes avec Raphaël Duchemin pour La France bouge et une France qui bouge en couple. À l'occasion de la Saint-Valentin, nos invités du jour sont venus nous montrer qu'on peut entreprendre à deux. Et justement, si vous aussi, vous avez monté une entreprise avec votre moitié, bien venez partager votre expérience sur Twitter avec le hashtag Europe 1 par exemple.
Et oui, par exemple. Ou au 3921, c'est comme vous voulez, on sera ravis de vous accueillir. Vous le savez, on dit souvent que les projets d'entreprise démarrent à la maison, dans la cuisine ou sur le coin d'une table. C'est aussi un peu finalement ce qui s'est passé pour Massicciu. Bonjour Anthony Massei.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour Laetitia Siepiao.
Bonjour.
Vous avez cofondé une distillerie qui fabrique des spiritueux 100% made in Corsica. Et je parlais de la cuisine, c'est parce que vous étiez, je crois, au départ, tous les deux étudiants à Corte. Et c'est comme ça que démarre l'aventure de la distillation, c'est Anthony.
Ça. C'est ça. Alors, au départ, Laetitia était étudiante. Moi, je travaillais en tant que technicien sur Corte. Et j'ai ramené un petit alambic dans sa cuisine de son logement étudiant. On a commencé à distiller ensemble, créer nos premières liqueurs, qui étaient liqueurs de myrte. Et au bout de quelques mois, on s'est dit, tiens, un jour, on aura une distillerie.
Ah.
Et ça, c'était en 2012. En 2017, on a créé une distillerie.
Oui, donc dès le départ, dès vos tentatives finalement de liqueurs, de myrte et puis après d'autres, vous aviez dans l'idée d'en faire une entreprise, Laetitia ?
Oui, en fait, au début, dans l'idée d'en faire une entreprise, oui et non, parce qu'au début, le but c'était vraiment de créer un spiritueux et de vraiment, comment dire, faire plaisir à la famille, aux amis. C'est de nous faire plaisir à nous parce qu'on aime vraiment ça. On a beaucoup échangé sur les spiritueux du monde. Enfin, c'est vraiment ce qui nous plaît.
Oui, puis vous, Anthony, vous aviez téléchargé des tutos pour voir comment on pouvait finalement améliorer le produit.
Pour voir déjà comment on pouvait fabriquer un alambic, pour commencer. Et ensuite,
carrément.
Oui, on a beaucoup appris en bouquinant beaucoup sur les livres, sur les magazines. Et Internet qui nous a beaucoup aidé au début pour comprendre tout ce procédé de distillation, ce qu'on n'était pas du tout dedans. Donc il a fallu, on s'est pris de passion vraiment, il a fallu énormément apprendre au début. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps.
Ouais, vous achetiez des cubis de vin pour faire vos liqueurs.
Pas des cubis, on consommait du vin à la maison et
vous gardiez les fonds de bouteilles.
Voilà, c'était un peu.
C'était la période de test.
Voilà, mais on s'amusait à l'époque. On testait un peu tout.
Oui, c'était pour la famille et les amis. Puis finalement, c'était bon ce que vous faisiez.
Ben,
donc,
au début, on a quand même fait des loupés. Mais, mais à force des années, on s'est rendu compte qu'on faisait des choses pas mal. Et c'est là qu'on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire.
Et oui, c'est là que vous décidez d'aller plus loin. Vous montez au Massicciu en 2017. Vous achetez votre premier vrai alambic. Là, celui-là, il n'est pas bricolé avec des tutos. De 300 litres, rien à voir avec celui de la cuisine, hein, Anthony.
Non, rien à voir avec celui de la cuisine qui faisait 200 millilitres. Donc c'était beaucoup plus long. Donc on a monté notre dossier auprès des douanes. On a pu acheter notre premier alambic, reçu notre premier alambic. On a commencé par créer notre base d'alcool pour nos spiritueux de digestif, qui était la châtaigne, le citron et la myrte au début. Et on avait déjà dans l'idée de faire un gin. Donc on avait acheté un alambic que l'on puisse modifier afin de pouvoir créer du gin à l'intérieur.
Alors comment ça se passe le travail à deux justement ? Qui fait quoi ? C'est vous qui distillez ? Ou est-ce que Laetitia le fait aussi?
En fait, on n'a pas non plus l'impression de travailler, donc on s'amuse encore à deux, on va dire. Mais après on distille tous les deux, on crée le produit à deux. Après, c'est vrai que je m'occupe un peu plus de la relation commerciale. Et mais bon,
c'est après, Anthony un peu plus de la fabrication.
Ben plus de la manutention.
De la manutention,
on va dire.
Ça se passe bien le travail en couple?
Oui.
Oui, ça se passe bien, surtout que...
N'ayez pas peur, hein, n'hésitez pas.
Voilà, vous dites que travailler en couple, pour nous, on n'est pas spécialement au travail.
Ouais,
on est toujours dans notre passion, on crée nos produits, on s'amuse beaucoup à créer de nouveaux produits, on a beaucoup de produits encore à créer. Donc, on n'est pas... Quand on va la distiller, on ne se dit pas il faut se lever et aller travailler. On se lève pour les distiller.
C'est ça,
On n'est pas dans le même registre. Quand on va en clientèle le soir... On va en clientèle le soir à deux, on ne part pas au travail non plus pour nous.
Bah, on cherche à passer un bon moment et à partager ce qu'on fait plutôt. Et... Enfin, voilà. Après, c'est sûr, il y a des journées beaucoup plus difficiles que d'autres, c'est normal, mais bon.
Hélène Valade, notre coach.
Entreprendre ensemble, au fond, ça donne de la force. Ça veut dire qu'on ne considère plus le travail comme le travail. C'est peut-être aussi une tendance de notre société, parce que vous êtes vraiment à cheval entre vie privée et vie professionnelle que vous avez réussi à concilier. Et derrière, ça veut dire sans doute que vous avez des valeurs communes. Par exemple, la nature, l'environnement, vous êtes en Corse, c'est important probablement dans vos produits. Est-ce que ça aussi, c'est des choses que vous partagez?
Ah, bien sûr. Après, tous nos produits, par exemple nos botaniques et fruits, on les prend sur des terrains de famille. Et nous, notre but dans nos spiritueux, c'est vraiment de créer une réminiscence. C'est, par exemple, on a eu un monsieur qui est venu visiter la distillerie. Et bon, c'est bien quand les gens nous disent ah oui, ça me fait penser, par exemple, quand ils prennent notre produit Aquada. Aquada, c'est la petite eau, la rosée du matin en Corse. Et il y a Nebida et menthe. C'est menthe aquatique et Nebida. C'est des botaniques qu'on retrouve chez nous, bon, sur des terrains de famille au village. Et c'est sûr, on a l'odeur, on a l'impression d'être à la rivière. Déjà, on est très content de créer des petites émotions. Mais une fois, carrément, un monsieur, ça me marquera toute notre vie, je pense. Il a goûté notre précieuse, notre spiritueux de châtaigne. Et il nous a dit, il avait la petite larme aux yeux. Enfin, moi, je suis assez émotive, donc voilà. Et il nous a dit, ça me fait penser à la liqueur que faisait ma grand-mère. Et enfin, là, on est comblés quand on entend ça. C'est génial.
Et oui, parce que c'est une émotion aussi que vous transmettez. C'est important, justement, de garder dans vos bouteilles, cette âme corse. Vous parliez du gin. Le gin, c'est pareil, il est particulier.
Alors, oui. Le gin, par exemple, oui, l'âme corse. Après, on veut aussi montrer qu'on peut sortir des traditions, créer un gin. Un gin, c'est un assemblage de botaniques. Et en Corse, pour moi, on a le plus gros jardin botanique de France, voire d'Europe. On a énormément de botaniques, on s'est dit, pourquoi pas un gin?
Alors, exemple, il y a quoi, ce gin?
Là, on a de la feuille de myrte, de la coriandre, du rosmarin, qui est le romarin, du zeste de citron.
Et la belle genièvre.
Et la belle genièvre, bien sûr, qui est la base du
gin. On se rend compte, Dora, que les couples entrepreneurs, ils ont des secrets, chacun, de réussite. Alors là, c'est l'envie de se lever sans aller travailler, hein, de partager une passion, finalement.
Oui, ce qui ressort, il y a un peu de tout. Il y a les plus, les moins, les secrets. On va commencer par le négatif, allez, juste pour changer, pour casser l'ambiance. Le risque, ce qui ressort souvent, c'est de jamais décrocher, en fait, amener les problèmes à la maison. Hein, c'est ça qu'il faut surmonter. Difficile équilibre vie perso, vie pro, dont parlait Hélène. La crainte de tout perdre aussi, parce qu'on met tous ses œufs dans le même panier. Hein, donc voilà, mettre à la fois en péril son couple et sa carrière. Alors les plus, on remarque que les gens disent on gagne du temps dans la prise de décision, parce qu'il y a moins de filtres aussi qu'avec un collègue, il n'y a pas de querelle d'ego parfois, et on a confiance à 120% en son associé du coup. Et les secrets, ce qui ressort souvent, c'est un couple équilibré, une entente bien sûr qui doit être à toute épreuve, une bonne complémentarité, et c'est ressorti dans ce que vous disiez également, avoir besoin l'un de l'autre et laisser de la place à l'autre.
On reste ensemble et on continue à entreprendre en couple aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1. Et on vous attend 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous et grâce à vous. A tout de suite. Europe 1.
On voit la vie en rose aujourd'hui sur Europe 1 à l'occasion de la Saint-Valentin. Vous recevez, Raphaël, des couples qui ont décidé de se lancer ensemble, d'entreprendre ensemble. Et comme d'habitude, la France Bouge est ouverte à tous. Alors si vous voulez participer pour partager votre propre expérience, eh bien on vous attend 39-21, 50 centimes la minute.
Nous sommes avec Catherine Néressis et Patrick Joly, cofondateurs de PAP, particulier à particulier. Eliette Vincent, Julien Lardet, cofondateur de Cocoli, envoyer un colis livraison par des particuliers. Et puis Anthony Massé et Laetitia Sepiao, cofondateur de la distillerie Corso Massiccio. Notre coach aujourd'hui, c'est Hélène Valade, directrice du développement environnement du groupe LVMH et présidente de l'ORS. Et à mes côtés, bien sûr, Dora. Tiens, Dora, je voudrais vous poser une question sur le statut justement de ceux qui travaillent en couple. Est-ce que la loi dit certaines choses sur ce statut? Est-ce que c'est particulier? Est-ce que ça a changé?
Oui, alors il y a eu des changements récemment. Depuis la loi PACTE de 2019, il y a eu un décret qui est sorti mi-octobre. Le conjoint du chef d'entreprise est mieux protégé. Alors le conjoint, c'est bien sûr celui qui participe activement à l'activité indépendante de son partenaire. Il a l'obligation désormais de choisir un statut. Alors celui de conjoint collaborateur, on rappelle, c'est non rémunéré et non associé. Alors il y a le conjoint collaborateur dont je viens de parler, le conjoint salarié et le conjoint associé. Et à défaut, la loi attribue le statut de conjoint salarié celui qui est le plus protecteur. Autre nouveauté depuis janvier, le statut de conjoint collaborateur, donc pour les personnes qui sont non rémunérées, je le rappelle, et pas associées, est ouvert à toutes les tailles d'entreprise. Jusque-là, il était réservé aux entreprises de moins de 20 salariés. Donc vous voyez, les choses changent pour protéger le conjoint qui travaille en couple.
Oui, parce que quand on entreprend à deux, on prend finalement le même risque à deux. C'est parfois un peu compliqué, non, Catherine ?
Effectivement, mais c'est quelque chose auquel nous avons pensé, et surtout qu'au début, on n'avait pas du tout d'argent. Donc
il n'y a pas de filet de sécurité.
Il n'y avait pas de filet de sécurité. Je me souviens d'ailleurs d'un gros problème avec l'URSSAF qui nous disait « mais vous n'êtes plus du tout couvert, il faut absolument vous rétribuer ». Mais on disait « mais on n'a pas les moyens de se rétribuer ». Ben alors il faut demander à votre patron de vous rétribuer. Oui, mais le patron, c'est nous. Et c'était vraiment la quadrature du cercle, et c'est très bien qu'il y ait maintenant un statut plus protecteur.
Et comment on fait justement dans ces cas-là, Patrick, quand on n'a pas forcément les moyens de se rémunérer et qu'on est deux finalement à faire tourner la boutique?
On vit sur les économies.
On vit sur les économies, donc encore faut-il en avoir.
Voilà, ouais. ça ne peut avoir qu'un temps. Et puis après, on se paye un tout petit peu et puis on essaye progressivement, en fonction des revenus, on essaye de se donner un salaire un peu plus décent, etc. etc. Mais voilà, on le fait au minimum, au minimum.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit aussi, ce risque commun que vous preniez, Eliette et Julien?
Forcément, quand on crée une entreprise, surtout en étant en couple, on prend un risque. Maintenant, c'est quelque chose que justement qu'on a essayé de limiter au maximum. Donc, on a vraiment préparé notre projet d'entreprise de manière très précise. On avait tout écrit en amont, justement, pour être sûr de limiter les risques au maximum, de savoir où est-ce qu'ils se situaient. Et ça nous a permis, du coup, finalement, en 5 ans, de pas avoir de soucis financiers et d'être plutôt serein sur cette partie-là.
Oui, on prépare finalement les choses pour être sûr d'être rentable à un moment donné, de pouvoir en vivre décemment, Julien.
C'est exactement ça, en fait, c'est de préparer au mieux pour en cas de coup dur, avoir toujours une solution pour pouvoir continuer à avancer.
Même question pour vous, Anthony et Laetitia. Est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui? Comment est-ce que vous en sortez? C'est assez récent, on a dit 2017, le lancement de Massiccio.
Alors nous, on pourrait l'être, mais le choix qu'on a fait, c'est vraiment de partir seul dans l'aventure avec nos propres moyens. Et ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment équiper au maximum la distillerie et dire voilà, nous on est capable de faire ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on travaille encore à côté un petit peu. Et vraiment de dire, voilà, maintenant, nous, on est capable de faire ça. On a fait tant de produits et maintenant, c'est parti, on envoie.
Anthony ?
On est tous les deux toujours salariés dans une autre entreprise.
C'est ce qui vous permet justement
d'investir une partie de notre salaire dans la distillerie sans forcément devoir taper dans nos réserves qu'on n'avait plus, puisque les réserves ont servi à acheter le premier matériel. Donc après, là, on n'a pas pu quitter notre travail. Et vu qu'un alambic, ça dure entre 6 et 8 heures, vous commencez à 6 heures le soir, vous finissez à 6 heures le matin, c'est parfait.
Calé. Ouais, la suite, c'est quoi? C'est devenir rentable d'ici la fin de l'année 2020? C'est votre ambition, hein?
Bien sûr. Après, rentable, on
l'est. Vous pourriez
c'est juste qu'on a décidé, on prend la décision de ne pas se verser de salaire pour continuer à développer au maximum l'entreprise par nos propres moyens, et d'avoir fondé des bases solides et pas se retrouver dans le pétrin plus tard.
Hélène Valade, notre coach.
Quel est le regard de vos familles respectives et de la société en général? Vous avez le sentiment qu'ils vous aident et que cet entrepreneuriat commun est plutôt une valeur qui est en train de monter, qui est donc reconnue par la société?
Qui a envie de répondre? Patrick, alors non, vous avez les enfants hein, qui sont là derrière et qui ont pris la suite.
Il y a même maintenant notre fille qui a pris la présidence de PAP. Depuis maintenant 2-3 ans, oui. Non, quand on s'est lancé avec Catherine, c'est ma mère qui était la plus affolée, quoi, qui s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait dans cette galère, pour quel risque il prend, quoi. Mais on ne se rendait pas compte, parce que je crois que dans tous ces parcours, il y a une dose d'inconscience. On a envie de faire quelque chose, on y va, on n'analyse pas tout. C'est pour ça que je suis assez surpris. Enfin, vous dites que vous avez vraiment bien calculé. Moi, je n'ai pas calculé grand-chose. Je me suis dit, ça passe ou ça casse, quoi. Et c'est passé. Voilà ce que je peux répondre là-dessus.
Et comment réagit la famille, Eliette?
Nous, nos deux familles sont hyper fiers de nous et nous encouragent énormément. Enfin, même nos parents, typiquement, il y a des moments où on avait beaucoup d'activités et on avait besoin d'un coup de main. Nos parents nous ont aidés. Et vraiment, pour le coup, ils ont été toujours très confiants et ils voient qu'on fait les choses plutôt bien, qu'on réussit. Et du coup, c'est vraiment positif.
Oui, une fierté. Ouais. Et pour vous, Laetitia et Anthony?
Mais nous, notre plus gros souci du fait qu'on ait gardé chacun un travail respectif à côté, c'est le manque de temps. Donc on est énormément soutenu par notre famille. Ils viennent nous filer un coup de main quand on a besoin de faire un coup de main pour les mises en bouteille, par exemple, pour la production le week-end. On a du personnel à disposition, on dira.
Oui, le coup de main est important. Catherine, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, alors d'une part, on a effectivement sollicité la famille au niveau des coups de main, jamais financièrement, mais au niveau des coups de main. Mais ensuite, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on a été une valeur d'exemple. Et maintenant, dans la famille, eh bien, il y a plein de neveux, de nièces qui ont eux-mêmes créé leur société et eux-mêmes l'ont fait aussi en couple. Et ça nous fait vraiment plaisir.
En tout cas, c'est un bel exemple que vous nous donnez tous les trois, tous les six aujourd'hui. Merci d'être venu nous raconter vos histoires entrepreneuriales en couple et bravo pour ce que vous faites.
Merci.
Merci. Et nous, on reste ensemble dans quelques minutes. Juste avant, on va écouter Gauvin Serre.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
À 13h50, Raphaël, il est temps de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, c'est La Chaume. C'est l'un des fleuristes les plus connus à Paris. Bonjour, Caroline Knockert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG de cette maison. Maître fleuriste depuis 1845. C'est Jules La Chaume, hein, c'est ça, qui est le créateur initial.
Oui.
Il s'installe dans le Paris chic. Faut qu'on rembobine un petit peu le fil.
Oui.
Les plus grands s'y pressent, notamment Marcel Proust.
Oui, tout à
l'époque.
Fait.
Il vient y chercher tous les jours une fleur.
Tous les jours, le cattleya.
Pour mettre à sa boutonnière.
Exactement.
Qu'est-ce qui fait la renommée à l'époque de Jules La Chaume?
Alors Jules Lachaume, déjà, il faisait des bouquets très élégants. Donc, il travaillait déjà les œillets, les orchidées, ce qui n'était pas évident. Ce n'était pas une fleur qui était très démocratisée. Et c'est vrai que c'est grâce à lui que c'est une fleur qui s'est démocratisée.
Ça veut dire qu'il sait mettre n'importe quelle fleur en valeur.
Il sait vraiment mettre la femme en valeur. Il connaît le chic. Voilà, il a le chic en lui, le chic parisien. Et c'est pour cela, en fait, qu'il y a énormément de personnes qui sont venues chez La Chaume.
Alors d'abord, c'est Chaussée d'Antin, et puis on déménage 1889 du côté de la rue Royale.
Tout à fait.
Et là, c'est un tournant parce qu'il va commencer à s'attirer l'intérêt des maisons de couture.
Tout à fait. Oui, avec Monsieur Dior, bien sûr. Et donc, en fait, il a commencé déjà à fleurir un podium en fait, de défilé avec la maison Dior, parce que Monsieur Dior avait ses bureaux au 10 rue Royale.
Donc, il se sert juste à côté, finalement.
Tout à fait, oui.
Et puis, le temps passe et votre famille va arriver avec votre grand-mère,
oui.
Giuseppina Calegari, qui reprend La Chaume en 1971.
Oui.
Il paraît qu'on la voyait aller à Rungis en talon aiguille.
Ah oui, oui, oui. Alors déjà, au Halles de Paris, elle y allait en talon aiguille et à Rungis également, en jupe et talon aiguille. C'était vraiment une femme très, très élégante.
Et un personnage aussi, un personnage qui connaissait très bien son métier.
Oui, complètement. Mais c'était vraiment une femme de goût et qui voyait, si vous voulez, elle n'a jamais travaillé les fleurs, mais elle savait ce qu'on pouvait associer en fait. elle l'imaginait déjà quand elle voyait. Et c'est vrai qu'en général, quand on arrive à Rungis, c'est notre premier travail. C'est de voir toutes ces fleurs et de se dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais mixer? Comment je peux voir la vitrine? Dans quoi je vais le mettre? Donc, c'est vraiment tout un travail. Et c'est vrai que quand vous voyez toutes ces couleurs, toutes ces fleurs, c'est incroyable.
Vous arrivez, Caroline, en 1997.
Oui.
C'est elle qui vous demande de venir l'aider. Vous avez travaillé oui. avec elle et puis finalement, vous n'êtes plus partie.
Exactement. Je ne voulais absolument pas travailler au magasin. Ça a été toujours rédhibitoire. J'ai toujours dit, jamais de la vie, je travaille avec toi. Jamais je ne travaille avec mes parents. C'est pas possible. Parce que c'est vrai qu'on entendait tout le temps parler du magasin. Donc c'était vraiment tout le temps, le week-end, les vacances, tout le temps. Parce que nous, on était tout le temps avec notre grand-mère, nos parents. C'est vraiment on est une grande famille et on est toujours restés très soudés, toujours ensemble.
Vous dites-nous, parce que votre sœur vous a rejoint dans l'aventure.
Exactement, qui elle non plus ne voulait pas venir. Et c'est assez curieux parce que, donc moi je ne voulais pas. Ma grand-mère m'a demandé de venir, papa est tombé malade à ce moment-là. Je suis venue, je ne suis jamais repartie. Et j'ai ma sœur aînée, parce qu'on a une troisième sœur aussi, mais qui, elle, n'est pas venue avec nous. Et elle, pareil, en fait, elle a travaillé dans le luxe. Et elle a fait des études, en fait, de marketing international. Et en fait, finalement, elle est venue parce qu'elle s'arrêtait à un moment donné de travailler. Et pour notre grand-mère, c'était impensable qu'on reste à la maison à s'occuper de nos enfants. Une femme travaille, elle doit être libre, elle doit... elle a pas à attendre après un homme.
Que dit notre coach, Hélène Valade?
Moi, je ne peux pas m'empêcher de citer Karl Lagerfeld, ouais. qui dit « Je peux reconnaître un bouquet Lachaume parmi une centaine de bouquets. » Et ça, j'avoue que quand on voit arriver chez soi un bouquet Lachaume, on est vraiment très, 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 très heureuse. Vous parlez souvent d'éphémères qui durent.
Oui.
Vous pouvez nous expliquer ce concept?
C'est parce que, en fait, quand vous voyez un bouquet, même s'il reste éphémère, c'est quelque chose que vous gravez vraiment dans votre mémoire. Quand vous avez un bouquet qui vient de chez nous, c'est vrai qu'on a un emballage aussi particulier. C'est tout ce qui fait l'effet waouh, on va dire, entre une toute petite chose extrêmement précieuse, où on va attacher énormément aussi, on s'attache à l'emballage, et une grande gerbe de roses où vous avez 50 roses. Que ça soit l'un ou l'autre, il faut vraiment que ça donne un effet incroyable. Et c'est ça, je pense, qu'il voulait dire, parce qu'il a reçu des choses aussi bien très petites et très sophistiquées comme des choses extrêmement volumineuses. Et c'est vrai que ça, il a vraiment des souvenirs.
Ce qui fait vraiment votre spécificité,
oui.
C'est justement ce travail sur les grandes fleurs, les, oui. les bouquets monumentaux.
Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, on s'est toujours attaché en fait, à acheter des fleurs qui sont vraiment de saison. Donc, on a beaucoup de grandes, grandes fleurs qu'on appelle du Paris et qu'on a en fait de mi-avril à mi-octobre. Donc là, ce sont vraiment des fleurs qui sont à côté de Paris. Après, bon, en dehors de ces saisons-là, ce sont évidemment d'autres arrivages. Mais dans ces grandes fleurs du Paris, vous avez des choses absolument extraordinaires. Vous avez des soleils qui peuvent mesurer 2 mètres de haut. Et c'est vrai que nous, ce qu'on aime, c'est faire des vases vraiment très abondants, des choses très opulentes. Et c'est vrai que vous avez donc des vases, du coup, qui font 2 mètres de haut, des diamètres avec 1,50 m. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment incroyables.
C'est particulier de recevoir un bouquet de chez vous, Hélène le disait. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, tout le monde fait attention à la provenance de ces fleurs, a le même souci d'engagement auprès des horticulteurs comme vous
non,
pouvez l'être aujourd'hui?
Je pense pas. Il y a beaucoup de petits fleuristes, je pense, qui font plus attention à ça. Maintenant, peut-être moins les grandes chaînes, effectivement.
Mais vous y êtes attachée, hein, vous
nous, ça,
travaillez.
Ça a toujours été parce que quand ma maman faisait déjà le marché de Rungis, pendant mes vacances scolaires, moi je ne partais pas, je partais à Rungis avec ma maman, mais pour moi c'était ma récréation, c'était vraiment un pur plaisir quand même. Et c'est vrai que j'ai toujours vu des petits producteurs produire une seule variété de fleurs, par exemple le producteur de scabieuses, le producteur de glaïeul, le producteur de campanules. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut garder. Et il faut que ça perdure parce que sinon, vous allez avoir que des fleurs qui sont standardisées, qui ont le même calibrage. Enfin, il y a plus de poésie. Une fleur française, elle a vraiment quelque chose de vraiment. C'est un vrai poème. Et vous la voyez évoluer, c'est extraordinaire.
C'est la Chaume, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu terminer cette émission en poésie avec nous.
Plaisir.
Merci d'être venu nous parler de cette belle maison. Merci à Hélène Valade qui était notre coach. Dora.
Merci Raphaël.
On vous retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait.
Et à ma place, il y aura Elisabeth Essayag.